C'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Couvre-feu élargi, confinement le week-end en zone urbaine. Plusieurs pistes sont à l'étude dans les Alpes-Maritimes pour ralentir le Covid-19. Dans ce journal, nous irons à Cuba qui a dit adieu il y a un mois à son système à deux monnaies. Une révolution économique difficile pour la population. Et puis, plus de 200 Boeing 787 vont être inspectés après la découverte de nouveaux problèmes.
Les invités de la matinale à partir de 7h50. Patricia Martin, vous recevrez...
Alexandra Badea, dramaturge, auteur et metteur en scène, elle publie « Tu marches au bord du monde », c'est aux éditions des Équateurs.
Et à partir de 8h20, notre invité, le philosophe et romancier Charles Pépin, il publie « La rencontre, une philosophie », le livre vient de paraître aux éditions Alary. La ville de Nice et les Alpes-Maritimes vont-elles repasser sous cloche?
Le Covid et ses variants galopent dans cette région. Le taux d'incidence y est particulièrement élevé. 700 cas positifs pour 100 000 habitants, soit plus de 3 fois la moyenne nationale. Alors le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que de nouvelles mesures allaient être décidées avec les élus locaux. On devrait en savoir plus dans la journée. Mais le ministre était à Nice hier, initialement pour rencontrer des soignants, parler de la prise en charge du Covid, et au cours de sa visite, un moment fort d'échange avec un patient, Claude, 68 ans, en rééducation, après 5 semaines de réanimation.
Je peux me permettre de mettre à votre hauteur,
oui, plus facile avec le masque. Bon voilà, donc j'ai vécu une expérience affreuse.
Vous avez eu quand le Covid?
J'ai été attrapé le 22 novembre, et je me suis laissé intuber sans crainte. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'empathie et la douceur des réanimateurs.
Quand est-ce que vous êtes sorti de réanimation?
Au bout de 46 jours, le 22 janvier.
46 jours de réanimation. Et puis avec trachéo.
Ouais. Mais je ne sais pas si vous savez ce qu'est le mastermind. C'est un jeu où on met des pots dans des trous. Incapable.
Si je jouais avec mon fils.
Incapable. J'étais totalement incapable. C'est comme une tétraplégie. Bon, c'est très impressionnant.
Ah oui. La détermination que vous y mettez, le courage que ça nécessite pour arriver à se dire on va s'en sortir, on va retrouver de l'autonomie, et une autonomie et retrouver la vie d'avant. Voilà, c'est le neurologue qui parle.
C'est gentil d'être venu.
Ne négligez pas ce que c'est pour vous. C'est bien de penser à vos proches, mais il doit vous dire aussi de penser à vous-même.
Un échange hier à Nice entre le ministre de la Santé, Olivier Véran, et un patient, Claude, durement touché par le Covid. Alors ces mesures attendues dans le Sud-Est pourraient aller d'un couvre-feu élargi à un confinement local le week-end, confinement territorialisé. C'est ce qui a déjà été mis en place en Guyane ou à Mayotte, mais ce serait une première en métropole. Le gouvernement s'y est pourtant toujours refusé jusqu'à présent, Simon Le Baron.
C'est Emmanuel Macron qui avait donné le ton vendredi soir en évoquant d'éventuelles restrictions locales devant des parlementaires de la majorité. Si ce n'est pas un changement de doctrine, cela y ressemble puisque la semaine dernière encore, à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal affirmait « Nous restons dans une logique nationale ». Depuis un an, ce n'est pas la première fois que des reconfinements locaux sont proposés. Le Premier ministre Jean Castex avait évoqué cette hypothèse pour la Mayenne en juillet. Plus récemment, les maires de Metz et de Nancy l'ont réclamé. Mais l'exécutif, échaudé par l'affronte des Marseillais contre la décision de fermer les bars et les restaurants dans la métropole fin septembre, a toujours écarté ce scénario, soucieux, selon un conseiller, de la lisibilité et de l'acceptabilité des mesures. Un reconfinement à Nice pourrait changer la donne et ouvrir la voie, par exemple, à un tour de vis similaire en Moselle. Quant à savoir ce qu'Emmanuel Macron, très satisfait de sa décision de ne pas remettre le pays sous cloche il y a 3 semaines, compte faire au niveau national, le président se donne encore 8 jours pour commencer à y voir plus clair.
Simon Le Baron, c'est le déconfinement aujourd'hui en Israël. Depuis 7h ce matin, les centres commerciaux, les boutiques non essentielles, les marchés, les musées, les bibliothèques ont rouvert. Israël met aussi en place le passeport vert pour aller dans les salles de sport, les piscines, les parcs d'attractions, les hôtels et assister à des événements sportifs et culturels. Il faut donc présenter son passeport qui atteste de la vaccination.
À la une également, Frédéric Vidal qui persiste et signe.
Après ses propos sur l'islamo-gauchisme, la ministre de l'Enseignement supérieur confirme dans le journal du dimanche qu'il y aura bien une enquête du CNRS. Enquête, dit-elle, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire un état des lieux sur la recherche. Frédéric Vidal qui dénonce également un procès d'intention après la tribune publiée par le journal Le Monde dans laquelle 600 universitaires demandent sa démission et l'accusent de répression intellectuelle. À l'étranger, le secrétaire général de l'ONU condamne fermement l'usage de la force meurtrière en Birmanie après la mort de plusieurs manifestants. Il appelle toutes les parties à revenir à un gouvernement civil. Et par ailleurs, Facebook a supprimé la page de l'armée birmane. Le réseau social considère qu'elle incite à la violence.
Inflation galopante, chasse au dollar et pénurie, nous sommes à Cuba.
Cuba qui a entamé il y a un mois maintenant le processus de fusion de ses deux monnaies. Le peso convertible, aligné sur le dollar, va disparaître dans 6 mois au profit du seul peso cubain. Cette grande réforme économique de l'unification monétaire était attendue depuis une décennie, mais les conséquences sont rudes pour les Cubains, car ces changements économiques signifient surtout davantage de files d'attente et des prix qui flambent, Domitille Piron.
À la sortie du marché, Yosvani se désole de voir le prix de son panier moyen augmenter, même si son salaire est passé à 3000 pesos, soit 100 euros par mois.
Pour moi, ce n'est pas logique. Mon salaire a été multiplié par 2, mais les prix ont été multipliés par 3 ou 4. Il y a un problème.
L'unification monétaire et du taux de change depuis janvier ont effectivement fait flamber les prix, car l'économie cubaine est désormais alignée sur l'économie réelle. Alors à quelques pas du marché à la bodega où les Cubains viennent s'approvisionner en produits de base, Maritza González encaisse le coup.
Le pain était à 10 centimes, maintenant il coûte 1 peso parce qu'il n'est plus subventionné.
Symbole de l'égalitarisme à Cuba, les subventions aux produits tels que le riz ou le pain via le carnet de rationnement disparaîtront dans les prochains mois. Mais pour la population, le plus grand défi aujourd'hui reste la dollarisation de l'économie. Pour absorber les devises dont le pays manque, l'État a effectivement mis en place des magasins d'alimentation uniquement accessibles en devises. Et pour Claudia Martinez, cela ne fait qu'aggraver l'inflation.
Nous n'avons pas accès aux devises parce que la banque n'en vend pas. Alors il faut acheter des dollars au marché noir. Le prix a doublé et ça continue d'augmenter.
En plus des pénuries et files d'attente, les Cubains doivent désormais faire face à l'inflation et la chasse au dollar. Dominique Piron, La Havane pour France Inter.
Pour la première fois, une transmission à l'humain de la grippe aviaire a été détectée. Cela s'est passé dans le sud de la Russie en décembre dernier et les autorités l'ont annoncé hier. Mais aucune des 7 personnes contaminées n'a été gravement malade et de plus, aucune transmission d'homme à homme n'a été détectée. Des milliers de Texans récupèrent progressivement l'eau potable et l'électricité après une vague de froid polaire sans précédent. Ces conditions météo ont paralysé pendant plusieurs jours cet état davantage habitué aux vagues de chaleur qu'à la neige. Aux États-Unis, le réacteur gauche d'un Boeing 777 a pris feu après le décollage. Les pilotes ont pu poser l'appareil en urgence à l'aéroport de Denver dans le Colorado. Et puis, autre difficulté pour Boeing, 200 appareils, cette fois-ci des 787 Dreamliner, vont être contrôlés après une anomalie découverte sur la détection d'incendie en soute. Philippe Lefebvre.
Effectivement, après avoir vu les 737 Max cloués au sol pendant pratiquement 2 ans après 2 crashs qui avaient provoqué au total la mort de 346 passagers et membres d'équipage, après des retards de plus de 2 ans annoncés pour la livraison des nouveaux 777X à cause de problèmes de moteur et de rupture de fuselage, ce qui a d'ailleurs provoqué les premières annulations de commandes, eh bien c'est maintenant le 787 Dreamliner qui doit retourner à l'atelier pour un problème de rupture de panneaux de décompression, un élément important en matière de lutte contre d'éventuels incendies en soute. 222 appareils vont donc être inspectés à travers le monde. Coût de l'opération au moins 26 millions de dollars à la charge de l'avionneur américain qui va devoir également répondre aux questions de l'administration fédérale américaine de l'aviation civile qui enquête depuis septembre dernier sur d'autres défauts de fabrication sur l'avion star de Boeing. Boeing qui a annoncé cette semaine 12 milliards de dollars de pertes en 2020 et pour qui visiblement la série noire continue.
Philippe Lefebvre, depuis 5 ans, le violoniste et chef d'orchestre Julien Chauvin qui dirige le concert de la loge s'est lancé dans l'enregistrement de l'intégrale des symphonies parisiennes de Joseph Haydn, qui avait été commandée au XVIIIe siècle par son illustre ancêtre, le concert de la Loge Olympique. Le dernier volet des 5 coffrets vient de sortir et il aborde, Stéphane Capron, le côté sacré du compositeur.
Haydn compose son Stabat Mater en 1767. Il est très influencé par celui de Pergolèse. La partition arrive à Paris en 1780 et un an plus tard, l'œuvre est jouée en 2 fois, le lundi saint et le lendemain. Pour cet enregistrement, Julien Chauvin a travaillé sur la partition imprimée à sa création où l'on peut entendre le latin parlé de l'époque et aussi toute la richesse de l'œuvre de Haydn.
Haydn, c'est une vitalité en fait, c'est un chic, c'est une intelligence, c'est un esprit, ça fait partie de sa musique. Quand on dit c'est spirituel, mais il y a de l'humour, il y a toujours un chic, il y a toujours une tenue, mais en même temps une variété incroyable d'utilisation des timbres, d'utilisation des instruments de l'orchestre. Ce sont des œuvres qui fourmillent de détails et quand on les travaille, on n'a jamais assez de temps. Les détails sont logés dans tous les instruments.
Pour compléter ce dernier album, Julien Chauvin a enregistré deux symphonies que Haydn avait composées pour le concert de la Loge Olympique en 1787. Et comme à chaque fois, il a demandé au public de leur donner un nom, qui a choisi la discrète pour la numéro 84 et la capricieuse pour la numéro 85.
La fin de l'intégrale des symphonies parisiennes de Haydn avec Julien Chauvin et le concert de la Loge sur le label Aparti.
Et j'en profite pour vous rappeler qu'à partir de 8h48, ce sera avec Anna Sigalevitch le moment classique, Classique & Co. C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et aujourd'hui, Jean-Michel Golinski, il y aura plus de soleil que de nuages.
En effet, sur la carte du temps sensible, la Bretagne et le Golfe du Lion se démarquent avec le maintien d'un ciel gris et pluvieux, contraste avec le reste du pays très ensoleillé à l'est, un peu plus voilé sur les régions de l'ouest, avec un vent très turbulent aujourd'hui dans la moitié sud, de 90 à 120 km à l'heure des bords de la Méditerranée aux crêtes pyrénéennes et au sud du Massif central, des valeurs tout à fait identiques pour le vent d'autant, avec des pointes à 120 km à l'heure sur la montagne Noire, 100 en pleine toulousaine, avec à nouveau aujourd'hui des températures très douces en perspective, une bonne quinzaine de degrés en moyenne cet après-midi sur le pays, voire 23-24 au pied des Pyrénées, où il fait déjà une vingtaine de degrés en ce moment.
Et Jean-Michel Golinski de Météo France.